Maintenant, pourquoi Cantor, dans ses relations avec les mathématiciens telles qu'elles sont reflétées, se reflètent dans cette correspondance, me paraît un caractère, disons un cas atypique par rapport aux traits dominants de l'époque. D'abord parce que, c'est mon premier point, parce que la relation entre ce qu'on pourrait dire nationalisme et internationalisme est formulée chez lui d'une façon tout à fait spécifique et quelquefois, voire un peu étonnant. Vous avez toutes les deux insisté sur la rupture. Disons, la rupture des relations scientifiques franco-allemandes à cette époque, je nuancerai un petit peu, je ne pense pas qu'il y a vraiment eu rupture ou interruption par la guerre. En fait, on peut même dire d'une certaine façon, la guerre a jamais, les relations scientifiques intellectuelles ont été aussi intenses que dans les années qui ont suivi cette guerre. On voit des Français voyager en Allemagne, étudier le système allemand. Aller dans les séminaires, les Normaliens vont dans les universités allemandes, et en gros, tous les personnages qui ont joué un rôle important ensuite dans la réforme universitaire française sont allés en quelque sorte, ont fait leur voyage allemand ou en Allemagne. Donc, ça vaut pour les sciences humaines et sociales, mais ça vaut aussi pour les sciences dites dures. Alors, ici, on a maintenant le cas d'un scientifique allemand qui cherche en quelque sorte des points d'appui à l'étranger contre les structures dominantes de l'université allemande dans lesquelles sa carrière est relativement freinée ou dans laquelle il ne trouve pas véritablement sa place. Donc plutôt que des Français allant en Allemagne pour étudier la vie scientifique et le système éducatif allemand. On a ici donc un Allemand qui se sent un peu marginal, malgré tout, et qui, en quelque sorte, fait le chemin inverse pour chercher des appuis à l'étranger. Et ça se fait dans une discipline qui, pour moi, apparaît toujours comme une discipline qui a été très tôt internationalisée. Il y avait peu de barrières, en quelque sorte, ni linguistiques, ni politiques, pour les mathématiciens, à l'époque. Et donc, Cantor illustre pour moi cette internationalisation de la discipline mathématique, de façon, tout à fait, intéressante. En s'appuyant en quelque sorte sur les Français, en attribuant aux scientifiques français le rôle moteur dans l'internationalisation des disciplines, il réussit à se créer une place sur la scène de plus en plus internationalisée des mathématiques. Et de ce point de vue-là, bon, on voit que Paris a joué un rôle très important dans cette internationalisation, non seulement des mathématiques, mais aussi des physiques ou des sciences humaines. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on est en face d'une relation, on pourrait dire, asymétrique ou dissymétrique, puisque on internationalise pour lutter contre la position dominante de la science allemande. Donc, les enjeux sont tout à fait spécifiques de ce point de vue-là. Et donc, du coup, Cantor diminue son rôle, son rôle allemand ou son identité allemande, alors que normalement, les universitaires allemands de l'époque valorisent au contraire cette spécificité allemande. Je pense d'ailleurs, pour revenir à cette lettre que vous avez citée, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire il se présente comme un marginal, mais en même temps, je pense ce qui est surtout important, c'est qu'il se présente comme quelqu'un précisément qui ne rentre pas dans des catégories nationales. Il est Saint-Pétersbourgeois, bon, c'est une ville, russe, cosmopolite, tout ce qu'on voudra. Et par ailleurs, il insiste aussi, c'est une autre manière de détourner le regard de la nationalité allemande sur, donc, sur la famille de sa mère, des grands-mères maternelles, donc ils sont des Autrichiens, des musiciens autrichiens de Vienne. Et qui ont, donc il insiste à plusieurs reprises sur le rôle important que son grand-père Böhm aurait joué à Vienne avec une école de violon, dont sont sortis des grands violonistes allemands, comme par exemple Joseph Joachim, qui est le fondateur, pour autant dire, des quatuors à cordes modernes en Allemagne. Bon, alors ça, c'est le premier point. Donc, finalement, on a vraiment un cas absolument opposé à ce qu'on voit d'habitude quand on regarde les correspondances de Mommsen avec les Français ou de Camille Julian avec des historiens allemands. Je vais raccourcir, je ne vais pas être trop long. Deuxième point, c'est la manière dont il se situe dans la constellation idéalisme-positivisme ou idéalisme-matérialisme. Parce que là aussi, en fait, la constellation ordinaire, normale, est qu'on a d'un côté un positivisme français, une culture française dominée par un positivisme ou par un certain scientisme, contre un idéalisme allemand, donc porté par la philosophie kantienne, notamment hegelienne, Schelling et de suite. Ou encore, à côté de l'idéalisme, l'autre variante allemande, c'est l'historicisme, donc tout le grand mouvement d'historicisation du champ des savoirs, voire, du point de vue philosophique, l'herméneutique. L'herméneutique comme une philosophie qui n'est pas cartésienne ou formaliste ou positive, mais qui est une philosophie de la compréhension, de l'acte, disons, de la communication. Or, donc, chez Cantor, on a l'impression que les fronts sont complètement renversés, puisqu'on a ici un mathématicien luthérien allemand, anti-idéaliste, comme il le dit lui-même, anti-matérialiste, qui cherche donc l'appui, et non pas des positivistes français, mais des catholiques français, comme Valson, Maurice Dulst, Charles Lhermitte, que vous avez cité, qui cherchent l'appui chez les protagonistes des universités libres, donc libres qui deviennent des universités catholiques, et qui sont donc absolument à l'opposé, non seulement de la discussion française autour des universités de l'époque, mais aussi de la discussion des débats allemands. Alors pourquoi il se dit anti-idéaliste ? Parce qu'il est, du point de vue de l'histoire intellectuelle allemande, en quelque sorte un post-hegelien ou post-matérialiste, quelqu'un qui a tiré un trait, disons une ligne de Kant jusqu'à Hegel et puis jusqu'aux matérialistes comme Büchner, Vogt et d'autres qui sont cités et qui sont tenus pour responsables en quelque sorte de la rigidification de la philosophie allemande. Et il est atypique parce qu'on voit à la même époque en Allemagne, on voit, disons, un néo-kantisme qui va relire complètement cette histoire de façon différente en s'inspirant du geste herméneutique fondamental de Kant et qui va élaborer une nouvelle épistémologie aussi anti-positiviste, anti-matérialiste et anti-formaliste. Donc, c'est là qu'il y a cette particularité qu'il regarde du côté non seulement des catholiques, mais il regarde aussi du côté des occultistes, du mouvement occultiste et de la Kabbale. Et donc, on a ici donc une inversion aussi de la configuration classique. Et enfin, troisième point, la réforme de l'université de l'époque, dans ce qu'on peut lire dans ces 37 lettres et dans l'appareil critique, on s'étonne un petit peu que cette réforme, les débats sur la réforme de l'université sont relativement absents du moins du propos explicite hein, tel qu'il est développé, alors que dans d'autres disciplines, en sciences humaines et sociales, mais aussi chez les scientifiques français et allemands de l'époque, c'est un sujet absolument central, quasiment omniprésent. Il n'y a pas chez Cantor de discussion autour du modèle allemand, universitaire allemand, sur ce qui peut y répondre en quelque sorte dans les discussions françaises de l'époque. Il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler une présence indirecte de ce qui constitue normalement la vie universitaire, c'est-à-dire les revues, les associations, des actes honorifiques comme les décorations, donc qui sont tout autant des éléments de la vie universitaire classique, mais qui ne sont pas des enjeux directs de la confrontation pour la réforme l'université. Et c'est peut-être, et je terminerai là-dessus, pour moi, l'un des aspects les plus fascinants de cette correspondance, c'est que finalement, ce qui apparaît beaucoup plus que les grands débats sur la réforme universitaire, c'est plutôt l'aspect très concret et continu des relations scientifiques, où à la fois on traite de questions techniques entre scientifiques, et en même temps on est porté par une sorte d'éthique internationaliste commune, qui, encore une fois, que Cantor propose à ses interlocuteurs français et que les interlocuteurs français reprennent à leur compte parce que, d'une certaine façon, ça sert aussi leurs intérêts et leurs idées politiques. Donc, je m'arrête là.
Merci, Michel.